la porteuse de pain. Troisième partie, chapitre 26 à 30. Paul Armand voulut faire un pas pour la suivre. Pour la seconde fois, Georges lui barra le passage. « Vous veniez me parler d'affaires, je crois, » lui dit-il en souriant. « Pourquoi avez-vous laissé partir cette femme ?» demanda l'industriel avec violence. « Mais, cher monsieur, que vous importe? Est-ce que par hasard elle vous fait peur ?» Ces mots firent comprendre à Paul Armand l'imprudence qu'il venait de commettre, en montrant contre Jeanne un acharnement que rien ne semblait justifier.
« Peur à moi ?»
balbutia-t-il. « Je vous affirme qu'on pourrait le croire. Si la pauvre femme est véritablement Jeanne Fortier, elle a retrouvé sa fille malheureuse et mourante, et le désespoir lui a suggéré, l'idée folle assurément, mais touchante, de venir me demander la promesse que j'intercéderai auprès de vous dans l'intérêt du salut de son enfant. Il faut pardonner une telle démarche à une mère, même criminelle. Si, au contraire, elle n'est point Jeanne Fortier, ce qui peut être... » Jacques Garot interrompit à son tour. « L'épouvante peinte sur sa figure, quand j'ai prononcé son nom, aurait dû vous prouver que je ne me trompais pas, » dit-il. Sans paraître tenir compte de l'interruption, Georges continua. « Si, au contraire, elle n'est point Jeanne Fortier, mais Lise Perrin, la brave femme qui s'est prise de pitié et d'affection pour une enfant seule, souffrante, désolée. Non seulement nous ne devons pas blâmer sa démarche, mais nous devons l'admirer. Elle prouve un grand cœur. Vous avez agi comme votre conscience vous engageait à le faire pour le bonheur de Mademoiselle Mary. Cela ne regarde que vous. Mais ce qui nous regarde tous les deux, c'est que n'étant ni l'un ni l'autre des agents de police, nous ne devons point en faire le métier. » Le millionnaire avait eu le temps de reprendre son sang-froid. « Vous avez raison, 100 fois raison, mon cher avocat, » répondit-il. « Je n'ai pas été maître de ma colère. Vous devez le comprendre. En ayant, ou si vous le préférez, en croyant avoir devant moi la misérable créature qui a tué le père de Lucien Labroux, mon gendre futur. Je le comprends, mais vous pouviez vous tromper, et votre erreur causerait à la pauvre Lise Perrin un préjudice irréparable. C'est encore vrai, et ceci prouve une fois de plus que la colère est mauvaise conseillère. » Pour changer le cours de l'entretien, Georges demanda. « Comment Mademoiselle Mary se porte-t-elle ce matin ?»« Le mieux du monde. Cette maudite toux qu'il a prise hier soir avec persistance, au moment où vous alliez nous quitter, n'est point revenue. Je suis heureux de l'apprendre. À bientôt le mariage, je suppose. »« Sans doute, mais pas aussitôt que je l'aurais souhaité. »« Pourquoi donc ?»« Il me manque une pièce indispensable. »« Laquelle ?»« Ce matin, en classant les papiers relatifs à cette grande affaire, je me suis aperçu que je n'avais point l'acte de naissance de ma fille, indispensable pour la publication des bans que je voulais faire immédiatement. Et vous êtes obligé de le demander à New York? Parfaitement. Ce matin même, j'ai envoyé une dépêche à ce sujet à Davidson, mon ancien banquier. Il ne perdra pas une minute pour faire droit à ma requête et m'envoyer la pièce nécessaire. Mais cela fera forcément quelques jours de retard. Ce qui d'ailleurs ne nous empêchera pas de signer le contrat d'aujourd'hui en 15, à moins de circonstances tout à fait imprévues. Je sors de chez mon notaire et je lui ai remis le projet rédigé par vous hier soir. Il a dû le trouver informe. Il l'a trouvé parfait, au contraire. Je ne vois pas un mot à changer, m'a-t-il dit. Ceci est flatteur pour mon amour-propre. Maintenant, quelle est l'affaire qui vous amène? Nous allons en causer. « Je suis à vos ordres, venez. » Georges et son client passèrent ensemble dans le cabinet où ils s'enfermèrent. Jeanne, en sortant de chez le jeune avocat, semblait de nouveau frappée de folie. Elle descendit l'escalier en bondissant par-dessus les marches, suivit en courant la rue jusqu'au quai, et là, haletante, éperdue, hors d'état de faire un pas de plus sans tomber suffoquée, elle s'abattit sur son banc. « Ce Paul Armand m'a devinée, » se dit-elle alors, tout en reprenant haleine. Et sans l'intervention de ce loyal jeune homme, il me livrait. J'étais arrêtée, conduite à la préfecture, réintégrée dans ma prison sans même revoir Lucie. Oh, ce Paul Armand, ce riche sans âme et sans cœur, cause du désespoir de ma Lucie, je n'aurais pas dû tomber à ses genoux et implorer sa pitié. J'aurais dû lui sauter à la gorge et l'étrangler. Que va-t-il faire à présent, cet homme? Me chercher, et s'il ne me cherche pas lui-même, donner des indices à la police, qui bien vite découvrira ma retraite auprès de Lucie, et je serai prise. Mon Dieu, Seigneur mon Dieu, être innocente, être condamnée pour un crime qu'on n'a point commis et ne pouvoir se justifier. C'est horrible. Que décider? Quel parti prendre? Je ne puis cependant pas abandonner ma fille, la laisser seule, malade et désespérée. Si j'avais de l'argent au moins, je pourrais emmener Lucie et me cacher quelque part avec elle. Mais pour vivre et pour la faire vivre, je n'ai rien, rien que mon travail. La situation est sans issue. La lutte est impossible. Eh bien, je m'abandonne. Je retourne auprès de ma fille. C'est là qu'on viendra m'arrêter. Du moins, ainsi, je verrai Lucie, jusqu'à la dernière minute. Et Jeanne reprit d'un pas chancelant le chemin du quai Bourbon. Elle trouva la convalescente un peu moins faible, et dans les tortures sans nom que souffrait la malheureuse mère, un rayon de joie se glissa, et l'humble martyr eut le courage de montrer à sa fille un visage souriant. Pendant les quelques jours que Lucie avait passés, abattue par une fièvre violente, elle ne s'était point souvenue de la visite que la porteuse de pain devait faire à Georges Darrier. La fièvre tombant, la mémoire était revenue. Lucie se disait que l'avocat, momentanément absent de Paris, devait être de retour. « Maman Lison, » demanda la jeune fille, « est-ce que vous avez pensé à voir Monsieur Darrier comme vous comptiez le faire ?» Cette question remit sous les yeux de Jeanne tout ce qu'elle venait d'endurer. Elle résolut aussitôt de cacher à l'enfant la vérité terrible. « Oui, chère mignonne, j'y ai pensé, » répondit-elle. « Et vous l'avez vu ?»«
Je l'ai vu. »
« Quand ?»«
Ce matin même. »
« Ah !» fit Lucie avec une expression de découragement. « Et il vous a éconduite, n'est-ce pas ?»«
Non, mon enfant, Monsieur Darrier est un honnête homme. Il m'a reçu avec bienveillance. Il m'a conseillé. »
« Enfin, que vous a-t-il répondu ?»
Que ceux qui s'acharnaient à vous persécuter étaient des monstres, mais que vous ne pouviez rien contre eux, et que la loi ne punit point les infâmes qui reprochent à une fille la honte de sa mère.
Lucie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ma mère, balbutia-t-elle, elle est peut-être encore plus à plaindre que moi. Ah, je souffre bien, et cependant je ne me sens pas le courage de la maudire, elle, l'auteur de ma souffrance. »
Jeanne suffoquait d'émotion et d'attendrissement. Incapable de prononcer une parole, elle serra Lucie contre son cœur.
« Pourtant, ajouta la jeune fille, je regrette qu'elle m'ait mise au monde. »
La porteuse de pain avait eu la pensée de crier « Je suis ta mère !» en l'entendant dire qu'elle ne maudissait pas cette mère inconnue. Les derniers mots que nous venons de produire arrêtèrent ce cri sur ses lèvres. Sa fille ne voulait point la maudire, mais elle ne lui pardonnait pas de lui avoir donné l'existence.
Lucie se plongea dans une de ces rêveries douloureuses, si fréquentes chez elle depuis le jour de l'abandon de Lucien. Jeanne respecta cette rêverie tout en s'occupant des soins du ménage. La pauvre femme se trompait d'ailleurs en croyant que Paul Armand essaierait de la livrer à la justice. Une fois l'affaire qui la menait chez Georges Darrier terminée, le millionnaire regagna sa voiture et se fit reconduire à la rue Murillo. Aussitôt seul, il envisagea la situation qui lui était faite par la présence de Jeanne à Paris. Jeanne, ayant retrouvé sa fille. Jeanne, mise par le hasard face à face avec lui. La veuve de Pierre Fortier aurait pu le reconnaître et prononcer son véritable nom. À cette pensée, le faux Paul Armand sentit son sang se glacer dans ses veines. « J'ai eu tort de me laisser emporter, » se dit-il. J'ai eu tort de laisser voir que j'avais deviné Jeanne Fortier sous Lise Perrin. L'affaire arrêtée, comme je le voulais dans une minute d'égarement, eût été la pire des maladresses. Si la réflexion m'était venue en temps utile, j'aurais trouvé des mots habiles pour tout atténuer, pour tout pallier. J'aurais écouté ses doléances. Je lui aurais persuadé que cette Lucie m'inspirait une sérieuse compassion et que je chercherais un moyen de le lui prouver. À cette heure, il est trop tard pour l'amadouer, mais non pour l'empêcher de menacer plus longtemps mon repos.
Jeanne Fortier à Paris est un danger permanent suspendu sur ma tête. Il faut que ce danger disparaisse. » La voiture arrivait à l'hôtel au moment où le millionnaire formulait en lui-même cette dernière pensée. Il trouva Lucien Labroux auprès de Mary. Le jeune homme continuait à jouer consciencieusement le rôle imposé par Étienne Castel. Paul Armand lui serra la main et lui demanda « Êtes-vous allé aux ateliers, mon ami ?»«
J'en arrive, monsieur. »«
Rien de nouveau ?»«
Absolument rien. Tout va comme il faut. » »«
Vous retournerez seul à Courbevoie après le déjeuner, » reprit le millionnaire. « J'ai des courses à faire dans Paris. Il peut se présenter telles circonstances qui me retiennent plus tard que je ne le voudrais. » Si par hasard je ne rentrais pas dîner, je compte sur vous pour tenir compagnie à Mary.
« Père, dit la jeune fille, il était déjà convenu que M. Lucien viendrait dîner.
Eh bien, déjeunons d'abord.
On n'attendait que toi, père, tout est prêt. »
En gagnant la salle à manger, Paul Armand, s'adressant au jeune homme, ajouta « N'oubliez pas, mon cher Lucien, de réunir sans retard et de me remettre les pièces nécessaires pour la publication de vos bans. » J'ai, moi, déjà réuni une partie de celles exigées pour Mary. Dans peu de jours, monsieur, je vous apporterai ces pièces. On se mit à table. Le déjeuner fut court. Lucien ne pouvait laisser longtemps l'usine sans surveillance. Une voiture attendait, tout attelée, pour le conduire à Courbevoie. Paul Armand, de son côté, ne tarda guère à quitter l'hôtel, mais contre son habitude, il sortit à pied, gagna le boulevard Malesherbes, le suivit jusqu'au boulevard de Courcelles, puis, passant par les derrières des Batignolles, s'engagea dans l'avenue de Clichy. Il s'arrêta en face de la demeure d'Ovide Soliveau et sonna à trois reprises sans obtenir de réponse. Évidemment, le pseudo-baron Arnold de Reiss n'était pas chez lui. Paul Armand traça quelques mots sur une feuille blanche de son carnet, détacha cette feuille et la glissa dans la boîte aux lettres destinée à recevoir la correspondance du locataire du petit pavillon. Ceci fait, le millionnaire remonta l'avenue de Clichy jusqu'à un café d'assez bonne apparence où il entra et se fit servir une absinthe qu'il dégusta lentement en lisant les journaux. C'est là qu'il venait de donner rendez-vous à son exécuteur des basses œuvres. Nous laisserons ce misérable attendre son misérable complice et nous retournerons chez l'avocat Georges Darier. En entendant les ardentes supplications, en écoutant la voix brisée par l'émotion de Lise Perrin, le jeune homme avait parfaitement deviné qu'un sentiment plus fort que la simple amitié inspirait la pauvre femme. Mais il s'était bien gardé de le lui faire voir, et s'il avait pris la défense de Jeanne Fortier en face de Paul Armand, c'est qu'il ressentait une immense pitié pour cette malheureuse créature, condamnée mais non coupable peut-être, et qu'il ne voulait point prêter les mains à son arrestation. Cette arrestation, opérée dans son logis, lui causerait, il le sentait bien, un remords éternel. Georges ne se doutait point d'ailleurs que le millionnaire avait reconnu Jeanne Fortier à ses traits, au son de sa voix. Il ne soupçonnait nullement le vrai motif qui le faisait agir et ne devinait pas que Jacques Garot fût près de lui. Si Jeanne, en voyant Paul Armand, avait tressailli, si la stupeur et l'épouvante s'étaient peintes sur sa figure, il aurait peut-être pu se rendre compte de la situation du père de Mary. Mais la veuve de Pierre Fortier n'avait point reconnu, elle, l'assassin de Jules Labroux. À plus forte raison, Georges ne pouvait deviner celui-ci sous un masque d'honnête homme très riche et très considéré. Quoique son tuteur lui eût dit la veille certaines paroles mystérieuses, aucune supposition hostile à Paul Armand ne germait dans son esprit. Tout en trouvant cruelle la conduite du millionnaire à l'endroit de Lise Perrin, il se disait « Le père ne pense qu'à sa fille. L'égoïsme de sa tendresse paternelle le rend implacable pour tout ce qui, directement ou indirectement, s'attaque à son enfant bien-aimé. » Une autre pensée s'imposait aussi par moments à l'esprit de Georges. Peut-être cette pauvre femme qu'ils croyaient tous deux être Jeanne Fortier n'était-elle en réalité que Lise Perrin. Le jeune avocat l'avait attentivement regardée. Il avait cru trouver dans les lignes de son visage une vague ressemblance avec les traits de Jeanne Fortier, peinte par son tuteur. Mais cela ne suffisait point pour lui former une conviction. Il se dit néanmoins que, sachant quel intérêt Étienne Castel portait à Lucien, et devinant qu'il s'occupait de chercher le véritable assassin de Jules Labroux, il ferait bien de le mettre au courant de ce qui s'était passé, et de lui parler de ses doutes.
Si Lise Perrin était en effet Jeanne Fortier, peut-être en l'interrogeant, en lui prêtant un appui qui, toujours, jusqu'alors lui avait fait défaut, arriverait-on à trouver des indices qui conduiraient à la découverte de la vérité? Enfin, nous le répétons, Georges ne pouvait s'empêcher de ressentir pour Jeanne une immense pitié, une profonde sympathie. Un instant, il eut l'idée d'aller prévenir aussi Lucien, mais la réflexion l'arrêta. Un mot imprudent pouvait modifier du tout au tout l'avenir de son ami, lui faire manquer la position splendide offerte par Paul Armand. Il s'abstint et décida qu'il ne s'ouvrirait qu'à son tuteur. Après déjeuner, il se rendit rue d'Assas. Nos lecteurs savent déjà qu'il ne devait point trouver Étienne Castel chez lui. Obéissant à la consigne donnée, le valet de chambre répondit à l'avocat que son maître était sorti. « Pour longtemps ?» demanda Georges. « Je l'ignore, monsieur. Rentrera-t-il dîner ?»« Monsieur ne l'a pas dit. » Georges, qui connaissait l'extrême régularité des habitudes de son ex-tuteur, trouva cela un peu singulier, mais il n'en laissa rien paraître et se retira. Le soir, vers 9 heures, il revint. Étienne Castel n'était point de retour. L'avocat comprit alors qu'il se passait quelque chose qu'on voulait cacher à tout le monde, même à lui. « Aussitôt que mon tuteur rentrera, dit-il au valet de chambre, prévenez-le que j'ai une communication très pressée et très importante à lui faire. Je n'y manquerai pas, monsieur. » L'absence de l'artiste contrariait singulièrement Georges. « Je ne crois pas que Paul Armand aille dénoncer cette pauvre femme, pensa-t-il. Mais j'aurais été heureux qu'on s'assurât sans retard si elle est bien l'évadée de Clermont. Si je l'interrogeais, moi, fit-il tout à coup. Mais de quel droit irais-je m'immiscer dans sa vie? Se répondit-il. D'ailleurs, si elle est Jeanne Fortier, comme le lui a dit Paul Armand, prise d'épouvante, elle se sera enfuie, cachée, afin de se soustraire aux recherches, dissimulant même à Lucie, à sa fille, le lieu de sa retraite. Où la trouver? Si Lucie connaît le secret de sa mère, elle ne livrera pas ce secret, surtout à moi qui suis un inconnu pour elle. Décidément, je ne puis rien, absolument rien. C'est à mon tuteur seul qu'il faut confier le soin de porter la lumière au milieu de ces ténèbres. Attendons mon tuteur. » Et Georges retourna chez lui, un peu triste et très préoccupé. Paul Armand avait vainement attendu pendant 3 heures son prétendu cousin Ovide Soliveau. Il ne l'avait vu qu'une seule fois depuis que le pseudo-baron de Reiss avait quitté Mademoiselle Amanda à Bois-le-Roi, et il ignorait ce qu'il était devenu à partir de cette entrevue. Connaissant la nature vagabonde de son complice, il se demandait avec inquiétude s'il n'avait point par hasard quitté Paris tout à coup. À cette inquiétude s'en joignait une autre. Qui sait si Ovide n'avait pas commis quelque crime, ou tout au moins quelque délit, et ne se trouvait pas arrêté? Or, Ovide en prison, c'était pour le millionnaire un danger de toutes les heures, une épée de Damoclès incessante. Il retourna à la petite maison de l'avenue et sonna de nouveau à plusieurs reprises. Comme la première fois, la porte resta close. Nous savons que le pavillon était entièrement isolé. Paul Armand aurait bien pu questionner les voisins d'en face, mais c'eût été se mettre en évidence, se compromettre peut-être, et cela pour un résultat plus que douteux. Il rebroussa chemin, impatienté, énervé, presque furieux. Sa montre qu'il consulta marquait 5h30. Il rentra dans le café où il venait de faire une pause de 3 heures, demanda un second verre d'absinthe et se plaça près du vitrage de manière à voir depuis l'intérieur les personnes qui passaient dans la rue. Pendant 1 heure encore, il resta là, perplexe, anxieux. Enfin, à bout de patience, il prit le parti de retourner chez lui, et il allait franchir le seuil du café lorsque tout à coup il poussa une faible exclamation de joie. Sur le trottoir de l'autre côté de la rue, il venait d'apercevoir Ovide Soliveau marchant très vite dans la direction de sa demeure. Il traversa la chaussée et, pressant le pas, rejoignit Ovide. « Pas si vite, donc !» lui dit-il en lui touchant le bras. Soliveau se retourna. « Tiens, tiens, tiens » s'écria-t-il en tendant la main à son prétendu cousin. « En voilà une rencontre. Par quel hasard dans ce quartier ?»« Ce n'est point par hasard. Je viens de passer 4 heures au café d'en face. »« Sapristi, le temps a dû te paraître bigrement long. Tu attendais quelqu'un ?»« Oui, toi.
Nous avons donc à causer. À causer sérieusement, oui.
Où ?
Chez toi, si c'est possible.
Très possible, répondit Ovide. Mais c'est comme un fait exprès, tu arrives toujours au moment où j'ai une faim de loup.
En aurons-nous pour longtemps ?
Oui.
Alors, mon cher parent et excellent ami, dit le Dijonnais en faisant halte,
rebroussons chemin et allons dîner. Nous causerons ensuite.
À moins qu'il n'y ait péril en la demeure et qu'un retard d'une heure ou deux puisse amener de graves conséquences.
Nous n'en sommes pas là. Nous avons le temps de dîner.
Eh bien, allons nous mettre à table.
Les deux hommes entrèrent ensemble dans un restaurant voisin de la place Clichy et demandèrent un cabinet.
Ovide commanda le menu et s'installa en face du millionnaire.
« Ah ça ! Que fais-tu ? Que deviens-tu ? » lui demanda celui-ci.
« Je mène une existence vraiment charmante, mon bien cher.
Je joue. »«
Encore ? Tu es donc incorrigible.
Que veux-tu ? Les uns aiment les femmes, d'autres les voyages ou les collections de bibelots, toutes choses coûteuses. Moi, j'aime le jeu. Il n'y a que ça qui me dise. »
Et naturellement, tu perds.
Voilà ce qui te trompe. Je gagne.
Beaucoup ?
Eh, pas trop mal. J'ai fini par mettre la guigne en déroute. D'ailleurs, je ne fais plus comme autrefois, où je m'emballais. Je joue maintenant avec sagesse, avec réflexion.
En homme qui connaît son affaire.
Alors, tu vas devenir riche.
Que tu es bête. Je joue pour m'amuser, non pour m'enrichir.
D'ailleurs, qu'ai-je besoin d'être riche ? Puisque tu l'es, mon excellent cousin.
Et à propos de ça, j'allais t'écrire d'un moment à l'autre afin de te prier de m'envoyer mon mois d'avance.
Je te le donnerai aujourd'hui même.
Fort bien, tu m'obligeras.
Seulement, une chose m'intrigue.
Laquelle ?
Comment se fait-il qu'heureux au jeu, tu aies besoin de ton mois d'avance ?
La vie a des mystères qu'il ne faut point sonder, répondit le Dijonnais d'un ton sentencieux.
Tout en échangeant avec son prétendu cousin les répliques qui précèdent, Ovide faisait preuve d'un appétit formidable. C'est à peine au contraire si le millionnaire touchait au mets placé devant lui.
Soliveau s'en aperçut.
« Ah ça, mais mon très bon, tu ne manges pas ?» lui dit-il.
« Est-ce qu'il y aurait par hasard quelques nouveaux cheveux dans ton existence ?»
Paul Armand jeta un coup d'œil sur la porte du cabinet pour s'assurer qu'elle était bien close. Puis, se penchant vers son convive, il lui dit à voix basse.
« J'ai grand peur que cette fois, nous ne soyons perdus sans ressources. »
Ovide déposa sur son assiette la fourchette qu'il allait porter à sa bouche et prit une physionomie consternée.
« Voyons, voyons, qu'est-ce que tu me chantes là » s'écria-t-il.
Tout à coup, il se souvint de Mademoiselle Amanda, qui pouvait bien avoir fait des siennes, et son visage se rembrunit de plus en plus.
« Je te dis la vérité, » répliqua l'industriel. « On a découvert que nous avions un intérêt direct à la mort de Lucie ?» demanda Soliveau d'une voix tremblante.
« Non. »«
Quoi donc alors ? Ne me fais pas ainsi languir. Explique-toi. »«
4 mots suffiront.
Jeanne est à Paris. »«
Jeanne Fortier ?»«
Oui. »«
À diable !»«
Et elle a retrouvé sa fille. »«
Pas possible. »«
Ça paraît impossible et cependant c'est vrai. »
N'as-tu point été abusé par quelque faux rapport ?
Aucun rapport ne m'a été fait. Je me suis rencontré avec cette femme chez mon avocat Georges Darier.
Elle t'a reconnu ?
Balbutia Soliveau, pris de frissons et devenant tout pâle.
Heureusement non, mais sa seule présence à Paris constitue le plus grand de tous les dangers.
Elle ne m'a pas reconnu hier, il n'en faut rien conclure. La mauvaise chance peut la placer de nouveau sur ma route.
Peut-être me reconnaîtra-t-elle alors, et tu vois d'ici quel scandale, quel écroulement.
Ovide se mit à rire.
Ah ça, deviens-tu fou ? Lui demanda l'ex-Jacques Garot, trouvant son hilarité incompréhensible dans un cas qui lui paraissait si grave.
Oui, je ris, et bien malgré moi, de la facilité avec laquelle la venette te gagne.
Mais, mon excellent bon, du moment que Jeanne Fortier, nez à nez avec toi, ne t'a point reconnue,
tout péril est passé.
Je te répète que ne m'ayant pas reconnu hier, elle peut me reconnaître demain.
Bien sûr.
Si on y mettait ordre.
As-tu donc un moyen de l'en empêcher ?
Parbleu, et simple comme bonjour.
Quel est ce moyen ? Rassure-moi vite, car je deviens fou.
Parole d'honneur, tu me fais de la peine, mon pauvre vieux. Le moral s'affaiblit positivement.
Allons, allons, ne t'emballe pas, et compte sur moi. Jeanne Fortier est à Paris, tu en es sûre puisque tu l'as vue. Elle a changé de nom, bien entendu.
Oui. Comment se fait-elle appeler?
Lise Perrin.
Où demeure-t-elle?
Je l'ignore, mais on peut la trouver chez sa fille Lucie.
Quai Bourbon numéro 9? Ça me connaît.
Elle ne vit pas de ses rentes, je suppose. Quel métier a-t-elle pris?
Celui de porteuse de pain.
Ce qui la force à être du matin au soir par voie et par chemin.
Sapristi, elle a du toupet, par exemple, car son signalement est répandu de tous les côtés, et le premier agent venu peut la conduire au poste, d'où on la réexpédierait franche de port à la centrale.
Eh bien, mon très bon, ne tremble plus. Rassure-toi, au contraire, et buvons une bonne bouteille de Pommard ou de Volnay à la santé de la Bourgogne, notre berceau commun. Demain, Jeanne Fortier ne te gênera plus.
Que vas-tu faire?
Moi? Rien du tout, mais toi?
Moi? Répéta le millionnaire inquiet.
Naturellement, tu vas écrire de ta meilleure encre de Tolède à monsieur le procureur de la République que la nommée Jeanne Fortier, évadée de la prison de Clermont, se balade à Paris sous le nom de Lise Perrin et qu'on est certain de la trouver, ou de trouver sa piste, chez sa fille Lucie, quai Bourbon numéro 9. Tu seras libre de ne pas signer.
C'est impossible, répliqua l'ex-Jacques Garot. Je n'écrirai point cela.
Pourquoi?
Parce qu'on ne manquerait pas de m'attribuer l'arrestation de Jeanne.
Qui donc?
Georges Darrier. Je voulais la faire arrêter chez lui, mais il la protège et il s'est interposé entre elle et moi.
Ah ah, cet avocat du diable la protège.
La scène a dû être curieuse.
Mets-moi au courant.
Paul Armand raconta ce que nos lecteurs connaissent déjà. En l'écoutant, Ovide se grattait l'oreille d'un air vexé.
Tu dois comprendre maintenant, poursuivit le millionnaire, que l'on ne peut opérer ainsi sous peine de grave imprudence.
Georges Darrier, en apprenant l'arrestation de Jeanne dont les journaux ne manqueraient pas de donner la nouvelle, devinerait à l'instant que j'en suis l'unique auteur. Déjà, sans doute, il a trouvé fort étrange ce que je voulais faire chez lui. Des soupçons naîtraient à coup sûr dans son esprit.
Jeanne elle-même pourrait échapper aux recherches, car elle doit être sur ses gardes, et venir lui demander asile et protection.
Lucie peut aller trouver Lucien Labroux, son ex-fiancé, l'accompagner chez l'avocat.
Que sais-je? Je vois trouble au milieu de tout cela. Mais je pressens le danger, et mon pressentiment ne me trompe pas. Il me semble qu'autour de moi et contre moi se forme une ligue de jour en jour et d'heure en heure plus menaçante.
Lucien Labroux croit à l'innocence de Jeanne Fortier. Il doute de la mort de Jacques Garot. L'avocat Georges Darrier, le neveu du prêtre chez qui Jeanne a été arrêtée, est du même avis. Le peintre Étienne Castel partage leur opinion. Pour eux tous, Jacques Garot est vivant et Jeanne Fortier subit la peine qu'il devrait subir.
« Je vous demande un peu de quoi se mêlent ces gens-là, » murmura Soliveau.
« Quelle déplorable indiscrétion !»
Le faux Paul Armand continua. « Une étincelle au milieu de ces ténèbres, et le passé s'éclaire. Un mot imprudent, et tout est perdu. Tout s'écroule. Et cela juste au moment où Lucien Labroux allait entrer dans ma famille et se trouver, par cela même, réduit au silence sous peine de recueillir pour lui-même une partie de la honte qui jaillirait sur moi.
Faire naufrage au port, c'est horrible, cela m'affole.
Et Paul Armand, avec un geste de fou, prit sa tête entre ses deux mains.
Voyons, voyons, du calme, dit Ovide. Pourquoi jeter ainsi le manche après la cognée?
Rien n'est désespéré, mon très cher.
Les catastrophes que tu prévois peuvent se produire, j'en conviens, mais le contraire est possible aussi.
Jeanne peut parler, mais que dira-t-elle?
Qu'elle est innocente, par Dieu?
Toujours la même rengaine.
Elle l'a dit et répété autrefois jusqu'à satiété, et n'en a pas moins été condamnée bel et bien.
Elle peut te reconnaître, d'accord, mais tu n'as point ta langue dans ta poche et tu sauras répondre.
Cette femme extravague.
Jacques Garot est mort et bien mort. Je me nomme, moi, Paul Armand, et je peux en donner la preuve.
Et, répliqua le millionnaire avec découragement, tu as bien découvert que Paul Armand était mort à Genève. Pourquoi d'autres ne le découvriraient-ils pas?
Cette réflexion absolument logique ne pouvait se discuter. Ovide Solivo ne répondit pas.
« Je te dis que le péril est immense, » poursuivit l'ex-Jacques Garot. « Il ne cessera de grandir encore tant que Jeanne Fortier sera vivante. »«
Tu veux donc qu'elle meure ?» demanda Solivo d'une voix basse et sifflante en se penchant vers son complice.
« Ce serait le salut. »
« Réfléchis bien. Un crime ne peut-il avoir pour toi des conséquences plus graves encore que celles d'une dénonciation ?»«
Si Georges Darrier, si Lucie savent que tu as menacé Jeanne Fortier, l'idée ne leur viendra-t-elle point de t'attribuer sa fin tragique ?»«
Cette idée pourrait leur venir, en effet, après ce qui s'est passé, s'il s'agissait d'un meurtre. »«
De quoi s'agit-il donc ?»«
D'amener adroitement une mort accidentelle dont le hasard seul serait coupable. »
Ta-ra-ta-ta, c'est bientôt dit. La justice est très soupçonneuse. Quand elle se défie, elle fouille, et flairant un crime sous l'accident prétendu, elle finit presque toujours par découvrir le poteau rose. C'est bigrement dangereux, tout ça.
Alors, tu ne peux rien, tu ne veux rien tenter.
J'hésite. Aucun moyen ingénieux ne m'apparaît distinctement. Faire ce que tu demandes, c'est prendre un train de grande vitesse à destination de l'échafaud.
C'est risquer beaucoup, je le sais. Mais à n'importe quel prix, il faut éviter la catastrophe qui me semble imminente.
Songe que ta fortune est toujours attachée à la mienne.
Ma ruine est ta ruine. Adieu tes rentes, si je croule.
Halte là, pas de bêtises. La misère à cette heure me semblerait trop dure. S'il fallait gagner ma vie, je me laisserais mourir de faim.
Risque donc alors le tout pour le tout.
Es-tu décidé ?
C'est à voir.
Tu n'as pas d'autres renseignements sur Jeanne Fortier que ceux que tu me donnais tout à l'heure ?
Pas d'autres. Elle est porteuse de pain. Elle se fait appeler Lise Perrin. Elle a retrouvé sa fille, auprès de laquelle, sans aucun doute, elle habite. Je ne sais rien de plus.
Pas même le nom de la boulangerie pour laquelle Jeanne travaille ?
Paul Armand secoua la tête d'une façon négative.
Allons, reprit Ovide. Je suppléerai à l'insuffisance des indications.
Tu vas agir ?
Il le faut bien.
Surtout pas d'assassinat, ni couteau, ni revolver.
Sois tranquille. Un meurtre gentiment déguisé, un meurtre avec un faux nez qui lui donnera l'air d'un accident.
Allons, cette fois encore, j'espère nous tirer de là.
Quitte donc cette figure de l'autre monde.
Et mets-toi à manger et à boire comme une personne naturelle.
Paul Armand, pour témoigner de la liberté renaissante de son esprit, tendit son verre à Ovide, qui le remplit jusqu'au bord d'un vin de Bourgogne généreux. Le moment de se séparer approchait.
L'union fait la force, dit Ovide, mais l'argent est encore beaucoup plus fort que l'union.
As-tu des fonds sur toi, cousin ?
Paul Armand tira son portefeuille. Il y prit des billets de banque et les remit à son complice, qui les fit disparaître prestement, et demanda en sirotant un verre de chartreuse.
« Avons-nous encore quelque chose de tout à fait particulier à nous dire ?»«
Non. »«
Dans ce cas, inutile de retourner chez moi, ainsi que tu en avais exprimé l'intention au moment de notre rencontre. Règle l'addition et fais-y ajouter cette boîte de cigares que tu m'offres, ou plutôt que je m'offre à tes frais. Ils sont parfaits. Jolie marque, ces Morales. Je rentre, j'ai besoin de combiner un plan. »
Le misérable besogneux serra la main de son complice millionnaire et se retira.
Ainsi qu'on vient de le voir, Ovide Solivo se décidait à donner à plein collier dans les idées de Jacques Garot. Il se fiait à l'étoile de ce dernier et il se disait que plus serait lourde la chaîne du crime qui les unissait, plus il lui serait facile de parler en maître et de se faire payer à leur juste valeur les services rendus. Ovide était un homme de tête et d'action tout à la fois. Il se plaisait aux trames bien noires et bien compliquées qui lui rappelaient les mélos savourés au temps de la jeunesse, du haut des troisièmes galeries de la gaieté et de l'ambigu. Aussitôt rentré chez lui, il se déshabilla et se mit au lit, non pour dormir, mais pour réfléchir.
« Pas d'assassinat, disait-il, je suis de cet avis, mais il est plus difficile de préparer et d'amener à bien un accident suffisamment vraisemblable que d'enfoncer un couteau entre deux épaules. Il faut en outre que les circonstances s'y prêtent. Si malin que je sois, je crois l'être, j'ai agi avec une déplorable maladresse dans l'affaire de Lucie, puisque j'ai laissé cette grue d'Amanda me soupçonner. Il s'agit de montrer aujourd'hui plus de tact et plus de prudence, et surtout d'agir vite, le péril en la demeure pouvant se déclarer d'un moment à l'autre. Avant toute chose, il faut connaître le gîte de la porteuse de pain. Cela, dès demain matin, j'espère le savoir. Ensuite, nous verrons. Puisque Jeanne Fortier a retrouvé sa fille, c'est au Quai Bourbon, près de Lucie, que j'ai toute chance de réussir. Mais il va falloir se transformer de la tête aux pieds pour aller dans ce quartier où j'ai déjà rôdé pas mal, et où, par conséquent, on pourrait me reconnaître. Heureusement, j'ai plus d'un tour dans mon sac, et pour me faire une tête, je ne crains personne. » Ces réflexions et d'autres du même genre tinrent Ovide Soliveau éveillé pendant une bonne partie de la nuit. À 3 heures du matin, il sauta en bas de son lit, alluma une bougie, fouilla dans une malle de laquelle il tira un vêtement usé, fané, pané, qui se composait d'un pantalon de velours à côtes, d'un gilet déchiré et d'une vieille vareuse rapiécée. Il revêtit ses loques, endossa par-dessus une mauvaise blouse dont il retroussa jusqu'au cou des manches effilochées, se mit du rouge de brique sur les joues et du bistre autour des paupières, avachit d'un coup de crayon gras les coins de sa bouche, se coiffa d'une casquette plate dont il enfonça la visière sur ses yeux, mit sous son bras un sac de toile d'assez grande dimension, prit une petite canne flexible, en coupa la tête dans laquelle il enfonça fort adroitement un clou à crochet pour la transformer en l'outil classique à l'usage de messieurs les chiffonniers. Puis, ainsi déguisé, il sortit de sa demeure et se dirigea vers le centre de Paris. Tout en marchant, il se disait « Les porteuses de pain, ça se met de bonne heure au travail. Il faut prendre Jeanne Fortier au saut du lit. Je ne la connais pas, mais le costume me guidera. » Il gagna l'île Saint-Louis et, faisant mine de fouiller les tas d'ordures avec la pointe de son crochet improvisé, il surveilla la maison du Quai Bourbon portant le numéro 9. Jeanne Fortier, maman Lison, malgré les préoccupations graves qui l'obsédaient, n'oubliait point son service et s'en acquittait avec une exemplaire régularité. À 5h30, elle devait aller à la boutique de son patron, vérifier les commandes de la veille, apprêter ses tailles et ses paniers, et pendant qu'on les chargeait, elle se rendait avec les porteuses de sa maison et celles des environs au rendez-vous des boulangers, où les unes prenaient une tasse de café au lait, les autres un verre de vin blanc ou un petit verre d'eau-de-vie. Assiégée par de continuelles angoisses, Jeanne aurait bien voulu se soustraire à cette coutume, mais c'était impossible, à moins de passer pour une sauvage et d'être regardée d'un mauvais œil. Donc, il fallait se plier aux exigences du métier et faire preuve de bonne camaraderie. Pour arriver à 5h30 à la boulangerie Lebray, Jeanne était obligée de quitter le Quai Bourbon vers 5h. Aussi se levait-elle à 4h, afin de mettre vivement un peu d'ordre dans sa chambre, de passer son large tablier et de partir. 5h sonnait. La porte du numéro 9 s'ouvrit et la veuve de Pierre Fortier sortit de la maison. Ovide fouillait en ce moment un tas d'immondices précisément en face et, pour jouer au naturel le personnage de chiffonnier, entassait dans son sac force morceaux de papier et débris d'étoffe. En entendant la porte se refermer, il leva la tête. Le jour commençait seulement à poindre. Cependant, il reconnut du premier coup d'œil le tablier traditionnel des porteuses de pain de Paris. « Ce doit être elle, » se dit-il. « Allons, je ne rentrerai pas bredouille. » Jeanne, plongée dans ses réflexions, marchait d'un bon pas, sans trop se hâter. Ovide la suivit tout en inspectant les tas d'ordures placés sur son chemin. La porteuse de pain ne pouvait supposer que le chiffonnier qu'elle avait vu en sortant, mais sans le regarder, la filait. Ovide, pour éviter tout soupçon, ralentissait par instant son allure. Seulement, il avait grand soin de ne jamais perdre de vue son gibier, ce qui d'ailleurs n'offrait aucune difficulté, les rues à cette heure matinale étant presque désertes. Jeanne arrivait à la maison Lebray juste au moment où Ovide tournait le coin de la rue Dauphine et du quai des Augustins. 25 pas tout au plus les séparaient l'un de l'autre. La boutique n'étant point encore ouverte, Jeanne entra dans une allée sombre et disparut. « Voilà, se dit Soliveau, la boulangerie pour laquelle elle porte le pain. Mais cette porteuse est-elle bien la femme qui me préoccupe? Le contraire m'étonnerait bigrement. Il faudrait un hasard singulièrement improbable pour qu'une porteuse de pain, qui ne fut pas Jeanne Fortier, habita justement la maison de Lucie. Ovide s'engagea dans la rue Dauphine jusqu'en face de la boutique de Lebray. Il s'occupa à ramasser des papiers aux alentours, tout en fouillant du regard l'allée par laquelle venait de disparaître Jeanne.
En ce moment, la porte de la boutique s'ouvrait, et Jeanne venait aider la servante à enlever et à rentrer les volets. Deux porteuses de pain parurent en même temps, sortant de l'arrière-boutique. L'une était une jeune fille de 22 ans environ, l'autre une femme de 30. « Mame Perrin, » dit la jeune fille à Jeanne, « nous allons au rendez-vous des boulangers. C'est notre tournée ce matin. »«
Allez, mes enfants, » répondit Jeanne, « je vous suis. »
Ovide avait entendu.
« Mame Perrin, c'est bien elle, » murmura-t-il.
« C'est elle positivement. Elle va au rendez-vous des boulangers.
Il faut savoir où se trouve la maison. Ça peut servir. »
Et au lieu d'attendre Jeanne Fortier, Ovide suivit les deux femmes. Elles prirent un passage qui les conduisit en traversant la rue Guénégaud, rue de Seine, presque en face de l'établissement où les gens de la boulange se réunissaient et dont elles franchirent le seuil. En un tour de main, Ovide enleva sa blouse qu'il fourra dans son sac, il enfonça sa casquette encore plus sur ses yeux et pénétra chez le marchand de vin à son tour. La salle du comptoir était à peu près vide, mais au-delà, dans la vaste pièce que nous avons précédemment décrite, grouillait tout un monde d'ouvriers boulangers, des porteurs et de porteuses de pain. Quelques hommes n'avaient pour tout costume qu'une sorte de jupon de toile les serrant à la ceinture et descendant jusqu'aux genoux. La poitrine et le visage étaient enfarinés, les bras éclaboussés de pâte sèche. Les filles de service allaient et venaient dans la grande salle, au fond de laquelle, nous l'avons expliqué déjà, se trouvait la cuisine. Une partie de cette agglomération buvait, l'autre mangeait. Le patron trônait au comptoir de la salle d'entrée où se trouvait un cabinet prenant jour sur la grande salle par un vitrage. De petits rideaux jadis blancs fermaient à demi ce vitrage dans lequel s'ouvrait un vasistas. Les habitués prononçaient « vagistas ». Ovide se fit servir sur le comptoir un verre de vin blanc qu'il but debout. Jeanne arriva et passa derrière lui pour pénétrer dans la grande salle. Dès qu'elle parut, elle fut entourée.
« Bonjour, maman Lison !» disaient les uns.
« Bonjour, mame Perrin !» disaient les autres. Et on lui serrait les mains avec la plus franche cordialité. Jeanne Fortier était fort aimée, nous le savons, et Ovide put le constater en voyant la façon dont tout le monde l'accueillait. Il paya le verre de vin blanc qu'il avait bu, sortit, reprit son sac, son crochet, et retourna chiffonner consciencieusement dans les alentours de la boutique du boulanger Lebray. Les boutiques des environs et les portes des maisons commençaient à s'ouvrir. Les concierges et les ménagères apportaient sur les trottoirs les boîtes et les paniers, dont les tombereaux du service municipal de la voirie enlèvent chaque matin le contenu. Ovide n'aurait pu mieux choisir pour passer inaperçu que le métier dont il avait pris le costume et les outils. Il allait d'une boîte à l'autre, fouillant, crochetant de ci, de là, et surveillant toujours. Enfin, Jeanne reparut en compagnie des deux autres porteuses faisant partie du personnel de la maison Lebray. Au bout de quelques minutes, le guetteur les vit sortir toutes les trois de la boutique, poussant chacune devant elle un énorme panier à roulettes chargé de pain qu'elle manœuvrait grâce à un conducteur fixe, pareil à celui que possèdent les voitures d'enfants. Jeanne commença sa tournée en remontant jusqu'à la rue Saint-André-des-Arts, distribuant du pain de maison en maison, et allégeant petit à petit sa voiture d'osier. Successivement, elle passa dans toutes les rues qui se greffaient sur la rue Saint-André-des-Arts, rue Séguier, rue Gillecœur, puis elle desservit la place Saint-Michel, le quai Saint-Michel, les rues adjacentes, la place Maubert et enfin l'île Saint-Louis. À 8h30, elle avait terminé et s'arrêtait en face de sa demeure, où nous savons qu'elle distribuait le pain en dernier lieu. Ovide ne l'avait pas perdu un seul instant de vue, marchant quand elle marchait, faisant halte quand elle entrait quelque part. « Voici sa dernière station, » se dit-il, quand elle fut arrivée au quai Bourbon. « Maintenant, elle va retourner par le même chemin à la boulangerie, rendre ses comptes, et selon toute apparence, elle reviendra chez elle. Sans doute, elle doit avoir une distribution dans la soirée, mais ça m'importe peu. Il faut tirer parti de ce que je sais, » et baser mon plan sur l'itinéraire qu'elle a suivi, et qu'elle doit suivre tous les jours. À l'heure où elle part, le chemin qu'elle parcourt pour se rendre à la boulangerie est à peu près désert. Ceci est un atout dans mon jet. C'est au cours de ce trajet que se produira l'accident, si je viens à bout de le faire naître. Ovide descendit alors sur les bords de la Seine et se débarrassa des papiers et des chiffons qui remplissaient son sac. Ceci fait, il roula le sac vide autour de son crochet, remit sa blouse et remonta sur le pied Bourbon. Il aperçut de loin Jeanne qui s'en allait. N'ayant aucune raison pour la suivre, il reprit le chemin de l'avenue de Clichy, se demandant comment il allait faire pour rentrer chez lui, dans son bizarre accoutrement, sans attirer l'attention. Il eut la chance de n'être vu, ou tout du moins remarqué par aucun voisin. Laissons-le changer de costume et rejoignons le peintre Étienne Castel, qui, la veille, s'était fait conduire à la gare de Lyon. Là, il s'adressa à un employé et demanda à quelle heure partirait un train pour Dijon. « Un train express à 7h15, monsieur, » lui fut-il répondu. « Il arrive à Dijon à 00h39. »« Pas d'autre auparavant ?»« Non, monsieur. » Étienne regarda sa montre. Elle marquait 4h30. « J'aurais dû consulter un indicateur avant de m'embarquer, » murmura-t-il. « Enfin, ce qui est fait est fait. » Il déposa sa valise à la consigne, alla flâner dans les environs pour tuer le temps, revint dîner au buffet de la gare, y but une bouteille de ce joli vin blanc d'Ivorne qu'on ne trouve que là, mais qu'on est sûr d'y trouver. Et à 7h15, partit pour le chef-lieu de la Côte d'Or, département des grands vins et de la fine moutarde. À 00h30, un des omnibus faisant le service de la gare le menait à l'hôtel du Chapeau Rouge, où il dormit d'un profond sommeil jusqu'à 9h du matin. Il fit une toilette très correcte, annonça qu'il viendrait déjeuner entre 11h et midi, et après s'être renseigné, il se rendit à la préfecture. « Veuillez faire passer ma carte à monsieur le préfet, » dit-il au concierge, et ajoutez que le secrétaire du ministre de l'Intérieur m'a chargé pour lui d'une lettre. « Je vais faire conduire monsieur au secrétaire de monsieur le préfet, » répondit le concierge, « car monsieur le préfet est depuis 4 jours en tournée. »« Quand doit-il revenir ?» demanda l'artiste très désappointé. « Je n'en sais rien, mais monsieur le secrétaire pourra sans doute renseigner monsieur. » Le secrétaire apprit en effet à Étienne que le préfet reviendrait le soir même et qu'il pourrait être reçu le lendemain à 10h. À l'heure indiquée, le lendemain, l'artiste se trouvait en face du fonctionnaire et lui remettait sa lettre d'introduction. « Notre ami commun, le secrétaire de son Excellence, me prie de me mettre à votre disposition, monsieur, » dit le préfet après avoir lu. « Je serais très heureux d'obliger un homme de votre valeur. Veuillez m'apprendre en quoi je puis vous être utile. Je voudrais avoir des renseignements précis sur une personne née à Dijon. Un homme ou une femme ? Un homme. Qui s'appelle ? Paul Armand. Ce nom m'est inconnu, mais si vous avez la date exacte de sa naissance, il sera facile de vous renseigner en demandant communication de son casier judiciaire au procureur de la République. » « Cela ne suffira certainement pas, mais il est toujours bon de consulter cette pièce. Veuillez me donner le nom et la date. » Le préfet se prépara à écrire, et l'artiste, ouvrant son portefeuille et parcourant des yeux une page sur laquelle se trouvait un grand nombre de notes, dicta. « Paul Armand, né le 21 avril 1832 à Dijon, fils de Césaire Armand et de Désiré Claire Soliveau. Son état, mécanicien. « C'est à merveille !» Le préfet frappa sur un timbre. Un huissier parut aussitôt. « Ceci au procureur de la République ou à son substitut, » lui dit le fonctionnaire en lui donnant le papier sur lequel il venait d'écrire. « Et vous rapporterez la pièce en question. »« Bien, monsieur. » L'huissier sortit. « Vous avez besoin, m'avez-vous dit, de renseignements plus détaillés que ceux du casier judiciaire ?» reprit le préfet. « Oui, monsieur. »« De renseignements intimes ? » ?»« C'est cela. » « Eh bien, j'ai sous la main la seule personne, peut-être, qui puisse vous les donner. C'est un vieil employé de la préfecture, un homme de 70 ans, doux et d'une mémoire prodigieuse, et que je garde dans les bureaux malgré son grand âge, car il mourrait certainement le lendemain du jour de sa mise à la retraite. Rien ne s'est passé à Dijon depuis plus de 50 ans qu'il n'ait su et dont il ne se souvienne. »